Merci d'écouter RFI 13h en temps universel. Il est 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Cantner.
RFI Midi, dernière partie, le journal dans un instant, puis notre demi-heure consacrée au continent américain. On se penchera sur une pratique très spécifique aux États-Unis, le fait d'ajouter du fluor dans l'eau potable. Une pratique critiquée par le futur ministre de la Santé de Donald Trump. Nous irons aussi à la rencontre d'artistes haïtiens qui s'engagent, qui se mobilisent pour faire vivre les festivals de Port-au-Prince. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, la nuit a encore été agitée en Martinique.
Oui, après la décision de la justice de maintenir en détention le leader du RPRAC, Rodrigue Petitot, jusqu'au jour de son procès, le 21 janvier prochain. Nous entendrons tout à l'heure la réaction de l'un de ses avocats.
À tout à l'heure. Et tout de suite donc le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La présidente de la Commission européenne ne semble pas prête à ménager Emmanuel Macron.
Ursula von der Leyen est à Montevideo pour avancer sur le Mercosur. Malgré l'opposition de la France, le traité de libre-échange entre les 27 et le marché commun du Sud pourrait être ratifié dès aujourd'hui dans la capitale de l'Uruguay, en marge d'un sommet des pays d'Amérique latine. Pour les deux parties, il y a urgence. Il faut finaliser les discussions avant l'arrivée en janvier de Donald Trump à la Maison Blanche et ses menaces d'augmentation des droits de douane. Les agriculteurs français, eux, entendent maintenir la pression. Une descente a eu lieu ce matin au marché de Rungis. Hier, une vingtaine d'entre eux ont organisé une action avec leur homologue belge pour bloquer l'autoroute entre Lille et Bruxelles. Amélie Rébière est vice-présidente de la coordination rurale. On l'écoute.
Les manifestations vont aller crescendo, de toute façon, là, dans le mois de décembre. Le problème, c'est que les gros perdants de cet accord de traité de libre-échange, ça reste quand même les agriculteurs français qui vont voir sur le territoire importer des produits qui ne respectent pas nos normes à nous. Mais par exemple, la viande qui viendra d'Argentine, qui est élevée aux hormones, qui n'est pas du tout élevée dans les mêmes conditions que nous. On parle de bien-être animal également, hein, quand vous voyez la taille des exploitations là-bas. Et le bien-être animal que nous, on essaie de mettre en place avec toutes les normes sanitaires, les normes de bien-être, c'est pas possible. On peut pas lutter, on peut pas être compétitif. Donc on va continuer malgré tout de se battre. Et puis après, qu'est-ce que vous voulez ? On ira demander des comptes à Emmanuel Macron et puis on ira au Parlement également.
Amélie Rébière est vice-présidente de la coordination rurale. Elle était interrogée par Nicolas Feldman. Emmanuel Macron qui tente de reprendre la main après la censure. Pas de mea culpa, pas question de démissionner non plus. Le président entend trouver rapidement un nouveau Premier ministre et former un gouvernement d'intérêt général. Et coup de tonnerre à gauche, le Parti socialiste se dit désormais prêt à discuter avec le camp présidentiel et la droite pour constituer un nouveau gouvernement pour une durée déterminée. Ses chefs étaient à l'Élysée ce midi. Ni les écologistes ni la France insoumise n'étaient conviés. C'est un grand pas de côté du PS. Le nouveau Front populaire vacille. La France insoumise crie à la trahison. Les Verts appellent à la vigilance.
En Syrie, les coups de boutoir contre le régime de Bachar el-Assad s'enchaînent.
Oui, les rebelles poursuivent leur avancée fulgurante. Rien ne semble plus les arrêter. Après Alep et Hama, ils sont aux portes de Homs, dernière grande ville encore aux mains des forces gouvernementales, sur la route de Damas, épicentre de la révolution en 2011. Et le but des islamistes radicaux du HTS est désormais clairement affiché, renverser le régime de Bachar el-Assad. Bonjour, Oriane Verdier.
Bonjour.
Dans la ville conquise de Hama, les images de la libération de centaines de prisonniers politiques sont impressionnantes.
Oui, sur les réseaux sociaux, les images se succèdent de vieux monsieur barbus, de plus jeunes émaciés, des embrassades qui n'en finissent plus entre un père et son fils en pleurs. C'est soudain toute l'oppression du régime qui saute aux yeux. Certains de ces hommes étaient dans cette prison depuis les années 80. Une rébellion face au père de Bachar el-Assad avait alors été réprimée dans le sang en faisant plusieurs dizaines de milliers de morts. D'autres prisonniers, eux, avaient participé au soulèvement, là encore historique, de 2011 contre le régime syrien. C'est l'une des principales prisons du régime qui a donc été ouverte. Dans ses murs sont parties plusieurs tentatives de mutinerie pour dénoncer la violence qui subissaient les détenus, mais aussi appeler à une solution politique du conflit. Ces images d'émotion et de joie contrastent avec l'anxiété que vivent aujourd'hui de nombreux Syriens face à l'avancée éclair de cette coalition menée par le groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham. Leur chef, Abu Mohammad al-Jolani, affirme pourtant vouloir assurer et protéger le droit de chaque Syrien et de chaque communauté, ouvrir un dialogue entre toutes les factions du pays, un objectif ambitieux dont il faudra suivre la mise en application.
Oriane Verdier du service international de RFI. Le Hezbollah chiite libanais, lui, se tient toujours fermement aux côtés de Bachar el-Assad. Hier, son chef a réitéré son soutien au régime de Damas, dénonçant des attaques de groupes terroristes qui veulent faire tomber le régime et créer le chaos sur le front libanais. Le cessez-le-feu tient toujours entre le Hezbollah et Israël, malgré des frappes régulières. L'armée israélienne annonce avoir mené aujourd'hui des raids aériens sur des routes qui serviraient au mouvement chiite à se réapprovisionner en armes près de la frontière syrienne. Aux États-Unis, les assurances privées sont très décriées, mais le système de santé américain repose sur ces assurances. Le PDG de United Healthcare, le premier assureur santé des États-Unis, a été assassiné mercredi devant un hôtel de New York. La police continue de traquer son tueur, mais depuis, bon nombre d'Américains profitent de la mort de Brian Thompson pour déverser sur les réseaux sociaux leur haine de l'industrie des assurances santé. Christophe Paget.
Sur X, un homme sabre le champagne. C'est le gif qu'a choisi un internaute pour accompagner la nouvelle du meurtre de Brian Thompson. Sur Facebook, United Health Group, la maison mère de son entreprise, a dû restreindre la possibilité de commenter ses condoléances. Hier, en fin d'après-midi, sur 53 000 réactions, 48 000 étaient des émojis rire. Pour la famille et les amis de Brian Thompson, écrit le Washington Post, l'épisode a été horrible. Pour certains Américains, c'est l'occasion de se défouler sur le système d'assurance maladie du pays. Car pour ceux qui ont des assurances privées, arriver à se faire rembourser tient souvent de la gageure, dans des périodes toujours très difficiles. On ne connaît pas encore les causes du meurtre, mais sur les douilles que le tueur a laissées derrière lui, les mots « retardé » et « refusé » étaient inscrits, des mots que les assurés entendent souvent quand ils demandent un remboursement. Des assurés qui, depuis hier, partagent en vidéo les récits de leur déboire avec United Healthcare. Une jeune femme raconte ainsi comment l'entreprise a d'abord refusé un lit médicalisé pour son fils handicapé. Selon un employé de l'entreprise, interrogé par le New York Times, Brian Thompson était l'un des rares responsables du secteur à vouloir changer la manière de fonctionner de l'assurance santé aux États-Unis.
C'est demain que Notre-Dame rouvre ses portes.
Tourner la page de l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale de Paris il y a 5 ans. Une inauguration en grande pompe est prévue. Emmanuel Macron espère bénéficier d'une parenthèse festive en pleine crise politique. Les commerçants de l'île de la Cité attendent aussi impatiemment la réouverture. Ils ont perdu jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires pendant les travaux. Mais ils devront attendre lundi pour ouvrir à Rambeng.
Gérant d'un coffee shop brésilien en face de la cathédrale, Alice Egmont est ravie de la réouverture de l'édifice, mais avec une pointe de déception.
Tous les magasins doivent être fermés durant le week-end, donc c'est un manque à gagner pour nous. Donc on est un peu déçus par rapport à ça, mais pour la suite, on espère avoir beaucoup plus de clients. Et donc voilà, on attend que ça, on attend l'ouverture pour retrouver cette dynamique et cette affluence autour dans le quartier.
Idem pour Robert, bouquiniste dans le quartier depuis 10 ans.
Alors, je suis content que ça réouvre. Bon, par contre, ils nous font fermer, enfin, en tout cas les bouquinistes nous seront fermés pendant 6 jours effectifs. Mais sinon tout va bien, moi je suis très content qu'elle réouvre. Et je pense qu'il y aura plus de monde effectivement après sa réouverture, ça sera positif.
Sean Joyer est propriétaire du restaurant gastronomique Alliance. Il est prêt à adapter ses jours d'ouverture par rapport à la fréquentation.
On est traditionnellement fermé le week-end, mais on a l'ambition de pouvoir ouvrir plus tôt ou plus tard en fonction des demandes qui nous seront faites pour adapter notre planning au planning des visites qui seront faites à l'édifice.
Les bouquinistes sont fermés depuis mercredi et les commerces de proximité devront baisser les rideaux dès vendredi soir et ce jusqu'à dimanche 20h.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Anne, merci de l'avoir suivi et je vous redonne la parole.
Merci. RFI Midi suite et fin. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi.
Et l'on reparle de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On le disait dans le journal, Ursula von der Leyen est en Uruguay pour finaliser le texte. Et c'est fait, Nicolas Feldman.
Oui, Ursula von der Leyen qui annonce que ce texte a été signé par la Commission européenne. Mais ça ne veut pas dire pour l'instant que le texte va être ratifié, puisque je le rappelle, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, les opposants peuvent constituer ce qu'on appelle une minorité de blocage, c'est-à-dire rassembler au moins 4 pays qui pèsent ensemble pour 35% de la population européenne. Donc jusqu'ici, on a la France, la Pologne et l'Autriche qui sont contre ce traité, avec l'Italie qui a aujourd'hui annoncé qu'elle allait s'opposer à ce traité. On pourrait donc atteindre cette minorité de blocage. Ça ne signifie pas, si jamais cette minorité de blocage est adoptée, que le texte serait enterré, puisque la Commission européenne pourrait ensuite scinder l'accord en deux, séparer d'un côté côté le volet politique et le volet commercial. Et alors, ce serait là au Parlement européen de se prononcer sur cette partie commerciale. Et je le rappelle, c'est cette partie qui fait le plus débat aujourd'hui au sein des 27.
Et d'ailleurs, la France, qui est très opposée à ce projet, fait savoir à l'instant par la voix de l'un de ses ministres démissionnaires que l'accord annoncé par la Commission européenne n'engage qu'elle pour le moment. Cet accord, il est très critiqué, notamment parmi certaines voix en Amérique du Sud. Tout le monde n'est pas convaincu non plus, à l'image de la porte-parole de l'Assemblée nationale en Argentine, Luciana Giotto.
Il s'agit d'un accord qui existe depuis 1999, un accord entre deux parties qui sont complètement asymétriques en termes de commerce. En d'autres termes, si nous examinons les paniers d'exportation du Mercosur et de l'Union européenne, on constate que l'Union européenne exporte vers le Mercosur principalement des produits à moyenne et haute valeur technologique. On y trouve des médicaments, des vaccins, des antibiotiques, des bateaux, des avions, des voitures et des moteurs. En d'autres termes, il s'agit d'un panier d'industries de pointe. Et dans le cas des pays d'Amérique du Sud, on trouve le contraire, c'est-à-dire un panier basé sur des produits primaires non transformés, comme principalement le jus d'orange, le café, le minerai de fer, les minéraux, la viande, bien sûr, c'est l'un des éléments clés, et puis un peu de soja pour l'éthanol.
La présidente de l'Assemblée nationale en Argentine.
RFI Midi.
L'actualité du continent vue par les journaux du continent américain et l'œil de Vincent Souriau aujourd'hui. Bonjour Vincent.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une de votre revue de presse, cette enquête préliminaire contre la présidente du Pérou.
Il y avait déjà eu le Rolex Gate, 4 montres de luxe, sans oublier des bijoux Cartier en sa possession, sans qu'elle soit capable de justifier l'origine de ce trésor. Cette fois, c'est une opération du nez qui l'a fait tanguer. Rhinoplastie, c'est de la chirurgie esthétique. Dina Boluarte s'est absentée entre le 29 juin et le 9 juillet 2023, eh bien le parquet lui reproche de l'avoir tenue secrète, cette absence, de n'avoir rien dit au Congrès péruvien, absence de communication quant à l'empêchement temporaire d'exercer la fonction de présidente de la République. Voilà ce qu'on lui reproche. Était-elle pendant ces 10 longs jours d'arrêt en contact avec son administration? Ce n'est pas ce que disent certains journalistes d'investigation au Pérou. Pas de conseil des ministres, pas de visite officielle, pas d'inauguration, pas d'invité au siège du gouvernement. Les autorités péruviennes ont donc convoqué pour en être sûr le chirurgien qui l'a opéré. Quel traitement a-t-elle reçu? Et parle-t-on bel et bien d'un repos médical qui l'a empêché de faire son travail? Au bout de l'enquête, il y a une possible violation de la Constitution.
Aux États-Unis, on en parlait dans le journal, c'est toujours la chasse à l'homme entamée avant-hier qui occupe les journaux, Vincent.
En cavale depuis 48 heures, l'assassin de l'assureur Brian Thompson, tué par balle en plein centre de Manhattan, mercredi à 6h45 heure locale devant l'hôtel Hilton, guetté comme une proie, abattu de plusieurs balles dans le dos. Le suspect a pris la fuite, mais laissé derrière lui plusieurs douilles, et c'est là que ça se corse, parce que des gravures ont été trouvées sur ces douilles, des messages qui font penser très fort au titre d'un livre paru en 2010. Et sous-titré « Pourquoi les compagnies d'assurance ne payent pas ce qu'elles vous doivent ».
Donc un possible mobile du meurtre?
La police se le demande en tout cas. Peut-être un meurtre politique guidé par la détestation du secteur des assurances, peut-être une revanche personnelle, l'enquête le dira sans doute. En attendant, il y a encore beaucoup de travail. Le tireur a tout fait pour déjouer les caméras de surveillance, capuche en permanence et masque sur le visage, avant et après l'assassinat, même s'il a fait une erreur et finit par montrer une partie de son faciès à la réceptionniste de l'auberge de jeunesse où il a logé, alors qu'il avait pris soin de réserver sa chambre avec une fausse carte d'identité.
Et d'après les images qui circulent, c'est un habitué des armes à feu.
Oui, sa posture, son calme, sa manière de tirer, ce n'est pas un débutant. Et pendant qu'il tirait sur Brian Thompson, il a même été capable de remettre en état en quelques secondes son pistolet qui s'était enrayé. Il a pris la fuite à pied, puis à vélo électrique, mais il a tout de même laissé des indices derrière lui. Avant l'assassinat, il s'est arrêté dans une boutique, il a pris un café, une bouteille d'eau, des barres énergisantes, et il a jeté ses déchets à la poubelle. Les enquêteurs ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient. On parle aussi d'un téléphone qui pourrait livrer de très précieuses informations sur ses contacts et ses déplacements aux États-Unis. À ce stade, on sait qu'il est arrivé fin novembre en bus à New York, mais pas beaucoup plus. La police de New York, la fameuse NYPD, veut en savoir plus et promet une récompense de $10 000 à quiconque disposerait d'un bon tuyau.
Vincent Souriau, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes après notre dossier du jour. aux États-Unis avec une vieille question qui est relancée par Donald Trump et par son entourage. Faut-il ajouter du fluor dans l'eau potable ? C'est assez fréquent aux États-Unis. La mesure est censée prévenir les caries, mais elle est de plus en plus critiquée, notamment par le futur ministre de la Santé de Donald Trump. Vous allez tout nous expliquer, Achim Lippold. D'abord, pourquoi est-ce que l'eau est fluorisée aux États-Unis, ce qui n'existe pas du tout dans les pays européens, par exemple ?
Exactement. Ça remonte en fait à 1945. À l'époque, on cherchait à améliorer, Anne, la santé dentaire des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on s'était rendu compte qu'un grand nombre de soldats étaient inaptes au combat à cause justement d'un grave problème dentaire. L'ajout du fluor a donc été adopté et les dentistes américains s'en réjouissent encore aujourd'hui. Environ 60%, entre 60 et 63% des Américains boivent aujourd'hui de l'eau fluorisée. Les défendeurs de cette mesure ont été donc stupéfaits d'entendre les déclarations du futur ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., lors d'une interview sur NBC il y a quelques semaines.
Vous voulez donc bannir le fluor dans l'eau potable aux États-Unis ? Je rappellerai aux autorités locales leurs responsabilités, y compris juridiques, envers les citoyens. Je leur présenterai de nouvelles études scientifiques. Et je pense que le fluor va disparaître assez vite.
Robert Kennedy Jr. convaincu donc que son combat contre le fluor sera couronné de succès, car le gouvernement fédéral ne peut qu'encourager, rien de plus, la fluorisation de l'eau dépend en fait des États et des municipalités.
Oui, exactement. Et depuis une dizaine d'années, Anne, surtout depuis la pandémie de Covid, de plus en plus de communes et de municipalités ont décident toujours de retirer le fluor de leur eau potable. Robert F. Kennedy Jr. est donc une des voix les plus influentes de ce mouvement anti-fluor aux États-Unis.
Et quels sont les arguments ?
Il vient d'abord un rejet des mesures perçues comme imposées comme par l'État. Un réflexe qu'on retrouve évidemment aussi chez les anti-vaccins, c'est-à-dire l'idée c'est que chacun doit pouvoir décider de ce qui est bon pour lui. Ensuite, il y a des études qui évoquent des effets neurotoxiques. Bruce Lanfea, professeur de santé publique au Canada, l'explique. Aussi, il milite pour l'arrêt de la fluorisation de l'eau. On l'écoute.
On a fini par se rendre compte que le fluor dans l'eau n'est pas aussi efficace contre les caries qu'on le pensait, surtout dans les régions où le dentifrice fluoré est très utilisé. Et certaines études scientifiques suggèrent un lien entre l'exposition précoce au fluor et une baisse du QI chez les enfants.
Voilà, mais ces études sont loin de faire l'unanimité, Achim.
Exactement. Christophe Lecard, porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, estime, lui, que ce débat est basé sur des peurs infondées. Pour lui, la dangerosité du fluor dans l'eau n'est pas prouvée.
Il y a une polémique sur le fluor. Cette polémique sur le fluor, elle est liée vraiment à une confusion des genres, parce qu'on mélange les différents types de fluor. Le fluor que l'on trouve dans la pâte dentifrice, le fluor que l'on trouve en complément dans ses eaux de distribution, n'est pas un fluor qui est toxique, qui est neurotoxique et qui ne provoque pas des cancers osseux. Donc on confond cette molécule de fluor avec d'autres fluors qui sont des perfluorures. Ces perfluorures, on les rencontrait dans les fartes de ski, on les rencontrait dans les bombes imperméabilisantes des chaussures, dans les revêtements des poils anti-adhérentes, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la molécule de fluor que l'on trouve dans le dentifrice ou dans les eaux de distribution.
Parce qu'il existe des études rigoureuses concernant l'impact de la fluorisation de l'eau sur la santé bucco-dentaire des enfants.
Oui, et le résultat, Anne, est sans appel. Les enfants américains exposés à une eau non fluorisée ont été 4 fois plus souvent traités pour des problèmes de caries que ceux vivant dans des régions où l'eau potable est fluorisée. Il reste que le meilleur moyen de prévenir les caries, c'est bien sûr limiter au maximum la consommation de sucre.
Merci, Achim Lippold. RFI, The World's Voices. On vous retrouve, Vincent Souriau, pour la suite de votre revue de presse en Haïti, avec ces démissions signalées au sein de la mission multinationale d'aide, de soutien, d'assistance à la sécurité.
On peut dire les trois. C'est une info de l'agence Reuters. Près de 20 policiers kényans de la MMAS, donc cette mission d'assistance, Près de 20 policiers, dont au moins 5 officiers supérieurs, ont jeté l'éponge en l'espace de 2 mois. 20 démissions pour 400 hommes déployés en Haïti en ce moment. C'est déjà 5% du contingent kényan. Problème de paye. Les salaires ne sont pas versés à temps. Pas assez d'équipement, pas assez de munitions. Et des conditions de travail qu'ils jugent traumatisantes. L'un d'entre eux confie qu'il ne supporte plus de voir des chiens se nourrir de chair humaine sur les cadavres qui jonchent les rues de Port-au-Prince.
Toujours plus de violence et un nouvel appel de la Conférence des évêques d'Haïti.
Appel relaté dans le Nouvel Liste. Avant Noël, le clergé haïtien exhorte, je cite, « ceux qui détiennent des armes et qui tuent, qui pillent, qui violent, qui brûlent et qui poussent les gens à quitter leur maison. Cessez ces actes odieux, écrivent les évêques. Ceux-ci ne sont bons ni pour le pays, ni pour le peuple, ni pour vous-même qui les commettez. »
Et dans ce chaos, des artistes tentent de préserver une lueur d'espoir, comme ceux qui participent en ce moment au festival Quatre Chemins et en lisant 2 rendez-vous prévus ces jours-ci à Port-au-Prince. Et vu comme des moyens de résister à la violence et à la terreur. Ça n'est pas facile, beaucoup de lieux culturels sont fermés. Les artistes étrangers ne se bousculent pas pour venir en Haïti en ce moment, mais les organisateurs ne baissent pas les bras et ils refusent de céder face à l'ultra-violence des gangs. Reportage, Peterson Luxama.
Tragédie quotidienne d'un peuple. Port-au-Prince, une ville assiégée par les gangs. Pourtant, dans les salles de spectacle, une autre réalité prend vie. Malgré l'insécurité généralisée, la culture refuse de s'éteindre. Avec le festival Quatre Chemins, les organisateurs s'efforcent de redonner un souffle à la création artistique au cœur du chaos. Guy Régis Junior, directeur artistique du festival, porte cette vision avec détermination.
Le théâtre a toujours sa place, la littérature a toujours sa place, la dramaturgie a toujours sa place. Même derrière les barricades, il est essentiel que l'on continue à lire, que l'on continue à écouter de la poésie, du théâtre.
Et c'est cette vision et cette passion qui constituent leur motivation à tenir allumer le flamme de ce festival, même si ça n'a pas été chose aisée.
Nous n'avons plus l'Institut français, par exemple, qui est le lieu où on avait concentré énormément de nos créations et où les artistes veulent jouer aussi parce qu'ils veulent faire des spectacles en lieu fermé avec de l'éclairage.
D'ici à sa clôture dimanche, le festival Quatre Chemins continue de vibrer au cœur de la capitale. Il transforme chaque scène en un espace de réflexion et d'espoir.
Toi désormais, cristal de poussière dans un corridor de lumière peut-être.
Et dès lundi 9 décembre, un autre rendez-vous culturel marquera la scène haïtienne, le festival En lisant. Il y a quelques jours, nous avons pu assister à une répétition. C'est le directeur artistique du festival, Eliezer Guérismé, qui nous accueille.
Je pense que la culture sauvera le monde.
Cette année, les organisateurs ont choisi de s'interroger sur un thème poignant. Et si c'était la fin ? Eliezer Guérismé précise.
Et si c'était la fin ?
Et si c'était la fin ? Cette réflexion s'inscrit d'abord dans une vision globale de ce qui se passe dans le monde. Les conflits et les guerres ne se limitent pas uniquement à Haïti. À certains endroits dans le monde, il règne une atmosphère d'apocalypse. Cependant, nous affirmons qu'il est essentiel que la vie reprenne et que l'art peut constituer une espèce de renouveau.
Pour Eliezer Guérismé, la culture est une arme de combat. Même dans le carreau, en lisant refuse de baisser les bras. La culture doit rester debout.
Même si le pays est particulièrement Port-au-Prince donne une impression d'apocalypse, il faut que les gens continuent de vivre et vivre à travers la culture. La culture est une arme de construction massive. Il y a des gens qui aiment ce pays, qui y croient et qui s'investissent dedans. Et les artistes font partie de cette catégorie.
À l'instar du festival Quatre Chemins, organisé la 9e édition d'en lisant dans un contexte aussi délétère n'est pas sans difficulté, selon Eliezer Guérismé.
En temps normal, des espaces accueillent nos événements et des partenaires nous ouvrent leurs portes. Mais aujourd'hui, en raison de la crise aiguë, ces partenaires sont contraints de fermer leurs portes.
À cela s'ajoute le désistement de certains artistes étrangers invités à participer au festival qui ont dû renoncer à leur venue en raison de l'insécurité. Une situation décevante, souligne Guérismé.
Nous avions des artistes prévus en provenance de la Guyane, de la France, de la Belgique, de la Guadeloupe, des États-Unis, qui malheureusement ne pourront pas venir. Les restrictions sur les vols nous empêchent de les accueillir.
Cependant, tous n'ont pas renoncé. Parmi les fidèles du festival, on retrouve Sylvie Laurent-Pourcel. Après plusieurs années d'absence, l'artiste française
est heureuse de pouvoir participer cette année, malgré le contexte difficile.
Ça fait 4 ans que je n'ai pas pu venir. Et ça faisait vraiment 4 ans que ce pays et ce travail que je fais ici me manquaient éperdument. Je suis ravie, c'est vraiment de la résistance artistique.
Non au théâtre des balles et assassinats et incendies.
Dans une ville où les barricades et la peur semblent imposer leurs lois, la scène artistique demeure un sanctuaire. Des artistes, des directeurs artistiques résistent encore. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Deux festivals pour résister à la violence et pour continuer de faire vivre la culture. 4 chemins qui durent jusqu'à dimanche. Et en lisant, ce rendez-vous-là commence lundi et il se terminera le 19 décembre.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, Benoît Ferrand, en Martinique, nouvelle nuit très agitée dans les rues de Fort-de-France après le maintien en détention provisoire de Rodrigue Petitot.
Le leader du RPRAC restera incarcéré jusqu'au 21 janvier, jour de son procès pour tentative d'intrusion dans la résidence du préfet. Une décision de justice qui a ranimé, vous le disiez, des foyers de tension dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la Martinique. Barrage, intervention des forces de l'ordre. Écoutez la réaction de l'un des avocats de Rodrigue Petitot, maître Eddy Arneton.
Le sujet, c'est pas le droit. En tout cas, après les deux audiences de cette semaine, le sujet n'est pas le droit. On fait autre chose en ce moment. Parce que tous ceux qui ont pu assister aux audiences ne peuvent qu'être surpris des décisions qui sont rendues. C'est quelque peu choquant. C'est vraiment la défaite de la justice. La liberté d'expression, elle est bafouée. Donc aujourd'hui, c'est M. Petitot, mais demain, ça va être vous, les journalistes. Ça va être nous, les avocats. Ça va être chaque citoyen. Il y a un mouvement social qui est né. Nous sommes en train d'assister à la chronique de la mort annoncée de ce mouvement en tranchant la tête de M. Petitot.
Maître Arneton au micro, bien sûr, de La Première Martinique. Direction maintenant la Guadeloupe avec la fin officielle de la grève à EDF. Elle durait depuis 80 jours. Un protocole d'accord a été signé hier, mais il reste encore et toujours des points de friction. Comme l'explique au micro de Marilyn Plaisir de La Première Guadeloupe, le leader de la Fédération de l'énergie CGTG, Jimmy Télémac.
Nous avions des sujets, notamment donc des sujets assez cruciaux qui avaient déjà été vus l'an dernier. Souvenez-vous, notamment sur le temps de travail, notamment sur la requalification de contrats de travail d'intérimaire. Sauf que l'ensemble de ces paiements, de ces ce que j'appelle rappel de salaire, ont été soi-disant versés sans aucun justificatif. Donc nous allons maintenant que ce préavis est terminé, qu'un protocole est signé, que les points de désaccord sont clairement indiqués, nous allons trouver le juge pour pouvoir faire dire le droit. Il est regrettable que dans ce pays, qu'on puisse refaire grève pour pouvoir obtenir l'application de ce qui avait déjà été signé, obtenir l'application du Code du travail. La Guadeloupe est connue aujourd'hui pour que 80% des conflits sociaux soit donc aujourd'hui, trouve leur origine dans la non-application du Code du travail, la non-application de la convention collective et pire encore, d'accords déjà signés.
Bon après-midi, bon week-end. Anne, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand. On se quitte en musique avec les Jamaïcains Mortimer et Damian Marley. Voici le morceau In My Time, sorti en septembre dernier.
No, I pray thee, give thanks to giving of thanks, no, and such forth.
Yeah, 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 being black has been a crime, to the people with no love inside, some could never tell you why, they hate you like a poison, they shoot us in the street, no apology. Nothing equality for monopoly. It's okay to disagree with my argument. Lost many nights of sleep, it's been troubling. In my time I've heard so many lies, seen so many rise, seen so many fall down. We've been witnessing the televised version of a side, seen us let ourselves down. Yeah. Looking even at my yard, since I am a learned fit dawn. I see fellow Africans hugging up the propaganda. Lord, I see discrimination, I see violence. solution if they cannot buy your silence. You know, sister, even freedom of a price.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui, pour cette semaine. On se retrouve lundi à 11h30, temps universel. Et tout de suite sur RFI Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint en Mauritanie à l'occasion du festival littéraire Traversée Mauritanide. Très bonne journée à tous.
Them say half the story's never been told. I wonder who is going to tell it. Will they package it and sell it? Can we purchase it with credit? And will they break it down in a way that we can get it? If you cannot read nor spell it, you cannot feel nor touch it, you cannot see.